Nous sommes lundi et comme chaque semaine, vous retrouverez dans un instant la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Deux responsables de la société Saint-Vincent de Paul France viennent d'achever un séjour sur le territoire, une visite pour soutenir l'association pour son rôle auprès des plus démunis. En métropole, un professeur d'université à Lyon publie une liste de personnalités juives ou supposées l'être qu'il qualifie de génocidaires. Les réactions sont nombreuses. Boualem Sansal s'exprime pour la première fois depuis son retour en France. L'auteur franco-algérien continue de plaider pour une réconciliation entre les deux pays, vous l'entendrez. Et puis les négociations entre Américains et Ukrainiens à Genève. Des progrès ont été faits. Nous avançons vers une paix juste et durable, a déclaré le négociateur en chef ukrainien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui se prolongera par le magazine des sports du lundi. Bonjour Lionel Sabot.
Bonjour Jean-François.
Nous parlerons notamment de football avec la suite et la fin d'une nouvelle journée de Ligue 1.
Oui, c'était la 13e journée de Ligue 1 qui s'est achevée ce matin par la victoire de Lille. 4-2 sur le Paris FC. Lille qui s'impose grâce à un doublé notamment de Giroud. On va rappeler que en début de journée, c'était samedi, l'OM s'est imposé 5-1 sur la pelouse de Nice et que le Paris Saint-Germain avait battu hier le Havre 3-0, Paris qui est leader devant Marseille et Lens.
Du rugby, et il y aura une double actualité.
Double actualité, la 10e journée du top 14, le championnat de France élite qui s'est achevé ce matin par la belle victoire du Stade français 51-24 sur Toulon. Et puis ce week-end, le rugby, c'était aussi le dernier test match de l'équipe de France et les Bleus qui se sont imposés 48-33 sur l'Australie.
En formulé, on croyait que la saison était quasiment jouée, mais pas du tout après le Grand Prix de Las Vegas.
Bah oui, parce qu'en fait, tout s'est joué en fait, après le Grand Prix. Les deux McLaren de Lando Norris et d'Oscar Piastri ont été disqualifiés pour non-conformité technique. Les deux pilotes ne marquent donc aucun point. Conséquence, bah Max Verstappen, qui s'est imposé à la régulière sur ce Grand Prix aux États-Unis, n'a que 24 points de retard sur Norris et il reste deux Grands Prix à disputer.
Voilà, nous prenons connaissance aussi des résultats, des principaux résultats, pardon, sport du week-end en Calédonie. Et puis nous parlerons aussi de la 3e édition de la Casino Padel Cup qui démarre ce soir. Ce sera au tennis club du Mont-Coffin et nous en parlerons avec nos invités. C'est évidemment le sujet politique dont on parle beaucoup. Les Calédoniens seront consultés avant le 15 mars 2026 sur l'accord de Bougival, publié le 6 septembre dernier au journal officiel. Et c'est le thème de la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
Ils sont nombreux à avoir dit que c'était impossible. Alors, elle l'a fait. Quelques jours après avoir annoncé l'organisation d'une consultation citoyenne anticipée, la ministre des Outre-mer dégaine son projet de loi. La consultation sur l'accord de Bougival aura lieu au plus tard le 15 mars. Ce sera une consultation binaire à laquelle il faudra répondre par oui ou par non et les Calédoniens seront appelés à se prononcer sur le texte initial, celui de l'accord qui a été signé le 12 juillet et qui, le 6 septembre, a été publié au journal officiel de la République française. Et enfin, ce sont les électeurs inscrits sur la liste spéciale consultation, celle des trois référendums, qui seront appelés aux urnes. Certains vont parler d'un passage en force, d'autres d'une avancée à marche forcée. Et c'est vrai qu'en agissant ainsi, Naïma Moutchou en bouscule plus d'un. On comprend la démarche par cette consultation anticipée, c'est-à-dire avant l'adoption de la loi constitutionnelle par le Congrès de Versailles. La ministre veut contourner un double blocage. Il y a d'abord celui du Parlement, où il pourrait être compliqué dans la cacophonie actuelle de trouver une majorité des 3/5. En demandant aux Calédoniens de se prononcer les premiers, la ministre fait le pari que les députés et sénateurs seront enclins à suivre la volonté exprimée par la population. Un oui à Bougival de la part des Calédoniens pourrait désamorcer les oppositions parlementaires. Le second blocage que veut contourner la ministre des Outre-mer, c'est celui du FLNKS, dont le refus de Bougival, l'absence de proposition et la volonté de ne parler qu'avec l'État et de ne discuter que de l'indépendance ont eu raison de sa patience. L'avantage de Naïma Moutchou, c'est qu'elle est nouvelle dans le dossier. Et on a l'impression qu'elle peut s'exonérer de certaines obligations que s'imposaient ses prédécesseurs. Tous se sont heurtés à l'inertie du FLNKS, qui rend impossible toute solution. Et même si elle y a mis les formes, en déclarant qu'elle ne veut pas faire sans le FLNKS, pourvu que le FLNKS ne fasse pas sans les autres, elle semble avoir tranché assez rapidement. À ses yeux, le FLNKS fait sans les autres et on est donc contraint de faire sans lui. D'autant plus que désormais, il fait aussi officiellement sans le PALIKA et sans l'UPM. Avec une consultation anticipée, le nouveau FLNKS garde toutefois la possibilité de faire campagne pour le non, même si par expérience, on peut penser qu'il choisira plutôt le boycott du scrutin. Mais en soumettant à la consultation l'accord publié au journal officiel, Naima Mouchou choisit un texte qui ne sera ni modifié, ni adapté, ni amélioré. Et cela ne fera pas forcément plaisir à l'UNI, qui avait proposé des évolutions de l'accord. Cela risque aussi de faire grincer des dents Calédonie Ensemble et l'Éveil océanien, qui réclament que certains compléments politiques soient intégrés à l'accord pour aboutir à un véritable accord consensuel. La ministre des Outre-mer bouscule enfin tous les constitutionnalistes, juristes et commentateurs qui, depuis des jours, expliquent doctement à qui veulent l'entendre que cette consultation est impossible, inconstitutionnelle et que sa base juridique est trop fragile. La ministre des Outre-mer a décidé d'avancer, elle prend son risque. Le projet de loi devrait être adopté en Conseil des ministres, soumis pour avis au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, puis la loi devrait être adoptée par le Sénat et par l'Assemblée, le tout sur fond de débat assez vif sans doute en Nouvelle-Calédonie. Autant dire que les obstacles sont encore nombreux avant que soit effective la consultation des populations intéressées sur l'accord de Bougival. Et peut-être même que ce n'est pas impossible.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir à retrouver sur notre site internet, à réécouter aussi cet après-midi juste après le flash de 16h. En bref, comme chaque année, la ville de Nouméa invite les administrés à vérifier rapidement s'ils sont inscrits ou non sur les listes électorales. Comme chaque année, la ville rappelle à la population qu'il convient de faire le nécessaire avant le 31 décembre pour vérifier une inscription sur la liste électorale générale ou bien pour mettre à jour une adresse ou procéder à une inscription afin de pouvoir participer aux élections prévues en 2026. Les habitants de toutes les communes sont évidemment concernés. Les démarches d'inscription peuvent se faire sur le site www.electeur-nc.fr ou bien auprès des services de la mairie. Une pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois sont pour cela nécessaires. Et puis avant de marquer une première pause, notez qu'il n'y aura pas d'audience jusqu'à mercredi à la cour d'assises. L'affaire qui devait être jugée sur 3 jours à partir d'aujourd'hui a en effet été renvoyée à 2026 pour des raisons personnelles qui concernent l'un des deux co-accusés. Je vous rappelle qu'un père et son fils doivent être jugés en appel pour des faits qui remontent à fin 2021 à Wallis. Le père est accusé de meurtre de son voisin à coups de marteau, tandis que son fils est poursuivi pour avoir maquillé la scène de crime en déplaçant le corps de la victime dans sa voiture. En première instance, les deux hommes avaient été acquittés par la cour d'assises de Wallis. Le parquet a donc fait appel. À 11h38, on va marquer une première pause. On se retrouve dans un instant pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie. Nous parlerons des 50 ans de l'ACAPA, mais aussi de la visite de deux responsable national de la Société Saint-Vincent-de-Paul.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
L'ACAPA a fêté ses 50 ans ce week-end. Un événement festif était organisé à la mairie de Nouméa samedi, avec notamment l'élection de Miss Mamie, des danses et un repas. L'association calédonienne d'aide aux personnes âgées travaille activement pour lutter contre l'isolement de nos aînés. Mais depuis l'année dernière, les ressources de l'ACAPA sont en forte baisse avec la diminution des subventions. L'association a donc dû s'adapter avec des activités menées par des bénévoles et des déplacements moins nombreux et moins loin. C'est ce que nous a dit ce matin Liliane Condoumi, elle est présidente de l'ACAPA.
On vit au jour le jour. Les subventions qu'on nous donne servent pour payer notre personnel et pour le fonctionnement. C'est l'ACAPA qui se débrouille par les moyens du bord avec des lotos, kermesses, pour trouver de l'argent.
Auparavant, vous faisiez appel à beaucoup de professionnels aussi pour vos activités. Aujourd'hui, tout repose sur le bénévolat.
Avant, on avait un professeur de théâtre. On était obligé de le payer, c'était son métier. Donc maintenant, on n'a plus de théâtre. Le chant, ce sont des bénévoles. La gymnastique, c'est notre ancien gardien qui a 85 ans, mais qui fait encore l'antécart et qui nous fait de la gymnastique, c'est formidable. C'est comme ça qu'on marche. Oui, on ne sort plus de Nouméa là, depuis 2 ans. Il faut qu'on loue des cars, on n'a plus les moyens, donc voilà. On va à la baie des citrons, on fait le pique-nique, les filles dansent la danse tahitienne sur le sable, il y en a qui se baignent, mais Avant, on allait quand même, on a été jusqu'au Vanuatu, on a fait l'île des Pins, on allait en brousse, loin, quoi. Mais maintenant, on ne peut plus.
Et la CAPA continue de chercher des bénévoles. L'association se situe au Faubourg Blanchot. Elle est joignable au 28 18 00, le 28 18 00. Deux responsables de la société Saint-Vincent de Paul France viennent d'achever un séjour d'une semaine en Nouvelle-Calédonie. La société Saint-Vincent de Paul a été créée en 1833 à Paris par le bienheureux Frédéric Ozanam, qui souhaitait répondre à la pauvreté qui se développait alors de manière très importante. Et depuis près de deux siècles maintenant, la mission de la société est restée la même, c'est ce que nous a dit Hugues de Foucault, le secrétaire général de Saint-Vincent de Paul France.
Rien n'a changé dans sa vocation. Accompagner les personnes seules, notre ADN n'a pas bougé. Et aujourd'hui encore, nous allons à la rencontre, où que ce soit, de ces personnes en solitude. Vous savez, la solitude est mortifère. Et donc, nous luttons avec toutes nos forces, tous nos bénévoles, partout, dans le territoire hexagonal, mais aussi dans les DOM, POM et TOM, pour accompagner ces gens seuls dans la précarité.
Aujourd'hui, la société Saint-Vincent de Paul est présente dans 115 pays, dans lesquels sont engagés plus de 17 000 bénévoles. Le siège parisien entretient des liens réguliers avec l'antenne locale de l'association. Et après les émeutes de 2024, explique Jean-François Pahin, bénévole et membre du conseil d'administration de la société Saint-Vincent de Paul France, il était important de venir sur place.
Notre objectif était d'être à l'écoute de l'équipe, à l'écoute des besoins du territoire et de nous rendre compte en réalité des besoins. Nous sommes ici aussi pour faire partager des expériences qui existent dans l'association, dans d'autres départements, afin de faire profiter l'équipe locale de ces expériences. Et à l'inverse, nous repartons avec des très belles idées que nous avons trouvées en Nouvelle-Calédonie, créées par l'équipe locale, et nous allons partager ces expériences, ces nouvelles idées dans le réseau en France.
Et deux idées ont particulièrement intéressé les responsables de Saint-Vincent-de-Paul-France, ajoute Jean-François Pahin.
La première idée qui est en cours de préparation, il s'agit d'un camion épicerie, donc une épicerie qui vient au contact des gens dans le besoin, à travers le territoire. Et cette solution est absolument merveilleuse parce qu'elle va nous permettre de venir au contact des gens qui n'ont plus autant de moyens de transport qu'hier, et donc d'être au plus près des besoins. La deuxième chose, c'est que ce camion permettra aussi de recréer du lien social avec des gens qui peut-être ne voyaient plus autant de personnes qu'avant. Et donc nous sommes extrêmement contents d'avoir trouvé cette idée.
Et l'autre initiative de l'antenne locale de la société Saint-Vincent de Paul qui va être partagée à l'ensemble des autres antennes, c'est l'opération Récup Canette. Il s'agit de récolter des canettes qui polluent l'environnement et de les ramener au dock de Normandie. Les personnes qui collectent peuvent recevoir en échange au bout d'une certaine quantité des colis alimentaires. Mais les responsables de la société Saint-Vincent de Paul France ont également partagé une inquiétude. Elle concerne le nombre et l'engagement des bénévoles, a expliqué Hugues de Foucault.
Ici en Nouvelle-Calédonie, l'équipe a été jusqu'à 80 personnes. Les événements ont pu décourager, faire peur, a fait plonger l'équipe jusqu'à 15. Aujourd'hui, l'équipe, c'est 25 bénévoles. Et elle accueille, cette équipe, tous les bénévoles de tout âge. Nous avons besoin des jeunes, nous avons besoin des jeunes retraités, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés qui viennent, dans un esprit désintéressé et bienveillant, servir les plus fragiles. N'hésitez pas, c'est une super mission, et le contact avec les autres, c'est merveilleux.
Et les deux responsables de la société Saint-Vincent de Paul France ont quitté le territoire ce week-end.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Au cœur de Noël, vous le savez, c'est l'opération du cœur de fin d'année de Radio Rythme Bleu pour laquelle nous sollicitons votre générosité. N'hésitez pas, vous pouvez passer à la radio à partir d'aujourd'hui, hein, chaque jour de 7h à 19h pour déposer des cadeaux pour les enfants, jusqu'à 18 ans, évidemment, vous le savez, des cadeaux qui feront plaisir parce qu'ils seront destinés aux familles en difficulté qui n'ont pas de quoi acheter des cadeaux pour leurs enfants, des cadeaux qui seront distribués grâce à nos partenaires, la Société Saint-Vincent de Paul, le Secours catholique, la Croix-Rouge, mais aussi la Table ronde française. Vous pouvez donc passer depuis ce matin à la radio et certains n'ont pas hésité, à peine lancé, vous vous mobilisez déjà. Les premiers auditeurs n'ont pas tardé à se manifester. C'est le cas de Jean qui est passé dès ce matin.
Bah écoutez, des jeux éducatifs, des jouets, c'était notre idée. Donner un petit peu de bonheur à tout le monde, ce qu'on peut.
Voilà, comme Jean, on vous attend tous les jours à la radio de 7h à 19h pour cette opération au cœur de Noël. C'est le lancement, nous vous en parlerons régulièrement. Et nous savons que nous pouvons compter sur votre générosité. On en vient à l'actualité dans la région avec cette annonce du gouvernement fidjien. Il veut relancer sa présence diplomatique en Europe et vient d'annoncer pour cela la réouverture progressive de son ambassade à Bruxelles. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Établie en 1973, l'ambassade a joué un rôle central dans le renforcement des relations entre les îles Fidji et l'Union européenne. Elle avait toutefois été fermée en 2021 dans le cadre des mesures d'austérité post-Covid. Ses fonctions avaient alors été assurées par la mission permanente des îles Fidji auprès des Nations Unies à Genève. En réponse aux complexités des institutions de l'Union européenne, qui exigent notamment une présence physique régulière à Bruxelles, le gouvernement Rambuka a décidé de rouvrir l'ambassade de façon, a-t-il dit, à rétablir une présence officielle des îles Fidji sur le continent européen et à assurer aussi une représentation plus efficace du pays au sein des principales instances internationales. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et à 11h47, une nouvelle pause. Dans un instant, c'est l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Baudin.
Avec d'abord cette nouvelle affaire liée à l'antisémitisme, un professeur d'histoire médiévale de l'université Lyon 2 a publié une liste de personnalités juives ou supposées l'être. Il a mis cette liste en ligne sur les réseaux sociaux en qualifiant les personnalités qu'il stigmatise de génocidaires. L'affaire fait évidemment grand bruit. Laura Legault pour Europe 1.
Sur cette liste figurent les noms de personnalités de la communauté juive comme le grand rabbin de France et le président du Fonds social juif unifié. Le professeur d'histoire vise aussi des philosophes, un économiste et des acteurs comme Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg et Philippe Torreton. Le président du CRIF, Jonathan Arfi, est lui choqué de voir son nom inscrit sur cette liste.
Je suis indigné par la publication de cette liste parce que effectivement, ça jette nominativement 20 personnes en pâture à la vindicte populaire. Il est totalement scandaleux de traiter qui que ce soit de génocidaire. Et je dois dire que je suis choqué aujourd'hui qu'un enseignant à l'université de Lyon 2, en l'occurrence, puisse s'autoriser de telles pratiques.
Un climat antisémite que dénonce aussi l'avocate pénaliste et présidente de l'organisation juive européenne, Muriel Waknin-Melki.
En mettant une liste de noms juifs sur ses réseaux sociaux, ce professeur met une cible sur le dos de n'importe quel étudiant de confession juive qui fréquenterait l'université Lyon 2. Cette liste de noms, c'est la goutte d'eau qui fait vraiment déborder le vase. Je crois qu'il faut véritablement se saisir de manière très ferme et très forte et prendre véritablement toutes les mesures nécessaires pour que le message passe clairement.
De son côté, l'université Lyon 2 condamne le contenu de cette publication et affirme se désolidariser de l'enseignant.
Boualem Sansal s'exprime pour la première fois en France depuis la grâce que lui a accordée le président algérien Tebboune et sa libération il y a quelques jours. L'écrivain franco-algérien est d'abord passé par l'Allemagne qui a joué un rôle actif dans sa libération et après s'être fait soigner pour un cancer de la prostate, Boualem Sansal est rentré en France. Il était ce matin pour nous l'invité du 20h de France 2. Il plaide toujours, vous allez l'entendre, pour une réconciliation entre la France et l'Algérie. Il l'a répété après avoir donné de ses nouvelles.
Je vais bien. On a détecté, diagnostiqué un cancer de la prostate. J'ai été traité pour ça, de manière tout à fait remarquable. En quelque sorte, là, je ne vous parle pas de manière naturelle, parce que moi, de naturel, je suis plutôt exubérant. Je m'étends dans tous les sens. Là, je contrôle chacun de mes mots.
Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Depuis toujours pour la réconciliation entre la France et l'Algérie, qui ne s'est pas faite. Elle aurait dû se faire en 1962, comme les Allemands et les Français l'ont fait après la Deuxième Guerre mondiale, malgré les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale. On a raté le coche à cette époque, on aurait pu le faire. 60 années sont passées, on est encore en train d'utiliser des discours de la guerre, de libération.
L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, ce matin pour nous tôt dans le journal de 20h de France 2. Où en sont les négociations de paix sur le dossier russo-ukrainien? Les représentants ukrainiens et américains sont réunis à Genève pour étudier la proposition faite par le président américain Donald Trump. On sait qu'il prévoit de laisser aux Russes certains territoires qu'ils ont conquis, ainsi que la validation de l'annexion de la Crimée et de l'autre côté la réduction de moitié des effectifs de l'armée ukrainienne. Si les Ukrainiens ont réagi négativement dans un premier temps, les lignes semblent bouger. Wilfried de Villers.
Côté américain, autour de la table pour ces discussions, l'émissaire de la Maison-Blanche sur les questions internationales, Steve Witkoff, et le secrétaire d'État, Marco Rubio, qui s'est exprimé en début de soirée.
Nous avons probablement eu la réunion la plus productive et significative jusqu'à présent dans tout ce processus depuis notre implication.
Aux côtés du chef de la diplomatie américaine, Andriy Yermak, le négociateur en chef de l'Ukraine.
Nous avons fait de très bons progrès et nous avançons vers une paix juste et durable. Le peuple ukrainien mérite et souhaite cette paix plus que quiconque, plus que n'importe qui sur cette planète.
De bons progrès, dit le négociateur ukrainien. Un peu plus tôt, un autre membre de la délégation affirmait que le plan américain reflétait désormais la plupart des priorités clés de l'Ukraine. Mais jusqu'à quel point les Américains, Donald Trump en tête, accepteront de faire des concessions? On ne sait pas pour l'instant exactement ce sur quoi les Ukrainiens sont parvenus à négocier. Kiev, comme les Européens, espère des modifications sur une série d'exigences considérées comme trop favorables à Moscou. Celle d'exiger du pays envahi qu'il cède des territoires, qu'il réduise son armée et s'engage à ne jamais rejoindre l'OTAN. À Genève ce matin, la délégation européenne a même soumis une version modifiée du plan de paix américain, une contre-proposition qui permet aux Européens de revenir à la table des discussions alors que le plan de Donald Trump s'est fait sans qu'il ne soit consulté.
Wilfried de Villers pour Europe 1.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Le chef d'état-major des armées, le général Mandon, a-t-il eu raison, selon vous, d'appeler à se préparer à un éventuel conflit armé avec la Russie en déclarant lors du Congrès des maires de France que le pays devait accepter de perdre ses enfants? Si vous pensez que le général Mandon a eu raison de faire cette déclaration, vous tapez 1. Si vous pensez qu'il a eu tort, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. Il est 11h53, une pause et on se retrouve dans un petit instant pour le magazine des sports avec d'abord les résultats sur la scène nationale et internationale.